la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagé.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Nous sommes le mercredi 29 avril et ce soir, j'aurais pu vous parler de Trump, du Liban qui continue de se faire bombarder pour aucune raison ou encore du fait que Taylor Swift a protégé sa voix contre l'IA. Mais la réalité, c'est que j'ai passé mes derniers jours à être hors de l'actualité parce que j'étais en colère. Alors en colère contre quoi, vous me direz-vous ? Eh bien en colère contre les personnes qui n'ont pas les mêmes standards que moi, je crois. Parce que je vis des expériences avec des personnes qui n'ont pas la décence de mettre de la sécurité émotionnelle, du cadre, lorsqu'ils prennent le temps de te conseiller. Je m'étonne de plus en plus qu'en 2026, on ne prenne pas le temps de dire les choses en les questionnant et non en les affirmant. Je m'étonne qu'on croie des non-dits, des rumeurs et non des faits, des réalités, des explications, des études de cas. Qu'on ne laisse pas la place à la discussion, qu'on affirme un point c'est tout. Que avant de se remettre en question, la posture d'une personne au complet, on ne prenne pas le temps de mettre un cadre bienveillant, accueillant et avant tout chaleureux pour parler de sujets épineux. Je m'étonne qu'aujourd'hui, en 2026, on ne conçoit pas les relations comme un tout, comme un sujet presque métaphysique, mais comme quelque chose de futile, qui n'aurait pas tellement de conséquences sur les autres. Je m'étonne et cet étonnement m'a mise en colère parce que quand on est la personne qui subit et qui accueille ça, eh bien c'est déstabilisant, c'est presque paniquant et déboussolant de tout remettre en question. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? De quoi j'ai besoin? Mais surtout, qui va vraiment mal dans cette relation? Moi ou l'autre? Au programme de ce soir, eh bien, deux Zooms. Dans le premier Zoom, Rania reçoit Lo pour son nouveau single Antagoniste. Dans le deuxième Zoom, on reçoit le groupe Ono avec Rory, Ulysse et Diane, quel joli prénom, qui sont reçus par Eve et moi-même pour parler de leur nouvelle EP dans le salon. Le Flash Info sera présenté par Alice. Yesk nous parlera de la censure journalistique dans sa chronique Actu. Eve nous parlera des objets du quotidien comme acte de rébellion dans sa chronique Libre. Vous écoutez la matinale de 19h sur Radio de Radio Campus Paris, sur le 93.9 FM en Ile-de-France. Et on passe tout de suite au premier Zoom de cette matinale.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et ce soir, nous recevons, comme je l'ai dit, Lo pour ton nouveau single Antagoniste. Et c'est Rania qui est aux commandes.
Alors, salut Lo Antagoniste.
Bonsoir, je suis trop contente d'être ici. Merci de me recevoir.
Merci beaucoup d'être parmi nous pour cette matinale et pour nous parler de ton single et de ton clip Joli Péché. Alors, comment ça va pour commencer?
Bah, merveilleusement bien. J'avoue, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais j'étais curieuse et je suis contente d'être là.
Ça va bien se passer. Merci encore d'être parmi nous. Tu es interprète, compositrice, mais également réalisatrice, comédienne. Bref, tu as des tonnes de casquettes différentes. Est-ce que tu pourrais te présenter en tant qu'artiste?
Ouais. Alors moi, il faut savoir que j'ai commencé... Enfin, j'ai vécu en Normandie, du coup j'ai fait 12 ans de conservatoire. Donc j'ai commencé à toucher à la musique par là, tu vois. Ensuite, je suis montée à Paris et j'ai complètement switché. J'ai voulu faire du cinéma, de la vidéo, etc. Et donc, j'ai commencé à travailler dans un média qui s'appelle Boucan, pardon, et qui filmait exclusivement des concerts, des sessions live et tout. Et du coup, j'ai recommencé à me plonger dans le milieu. Et à partir de 2 ans, à bosser là-bas, je me suis dit, en fait, je suis une grosse jalouse, j'ai envie de me remettre devant les caméras, tu vois. C'est là que j'ai essayé d'écrire mon premier single, rencontrer des bons collègues qui sont devenus aujourd'hui mes amis et managers. Et voilà, ça s'est lancé, ils me font confiance. Et petit à petit, un projet qui est encore embryonnaire, on espère le pousser là où on peut. Donc voilà.
On comprend que tu as été un peu égoïste parce que tu es aussi bonne derrière que devant la caméra. Juste pour revenir du coup sur ces années où tu as été plutôt derrière la caméra, tu étais autodidacte ou tu as justement suivi un cursus en école ou
J'ai fait un BTS, donc c'est une formation technique en métier de l'audiovisuel en option image, c'est-à-dire vraiment derrière la cam. C'était destiné à être assistant cam, quoi, ce genre de truc très technique. Et j'ai commencé à bosser parce que j'avais pas envie finalement de faire un truc très très technique, puisque même mes profs me disaient « Meuf, t'es pas faite pour ça, en vrai, t'es faite pour avoir plus d'inspiration, tu vois. » Et au début, j'étais en mode « Oui, ok. » Et au final, filmer, Enfin, quelque part, c'est artistique. Tu choisis tes cadres, tes plans, ta lumière, machin. Et c'est comme ça que ouais, j'ai fini là-dedans et c'était génial. Mais juste, du coup, ça te donne aussi envie de cultiver d'autres arts, quoi.
Donc, tu fais de la musique depuis 2 ans maintenant.
Ouais, 1 an et demi, 2 ans. Ouais,
un an et demi, 2 ans. Et donc, tu as sorti ton titre, Joli Péché, avec un clip également. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus?
Ouais, bah, Joli Péché, ça parle de la situation où on se trouve quand tu sais pas si tu veux choper quelqu'un ou si tu veux juste être son ami, etc. Et moi, il faut savoir que je parle pas de moi dans mes sons. Donc, je raconte des histoires et j'avais dû voir un film qui racontait un peu ça. Et j'ai dit, putain, c'est cool. Et donc, j'avais écrit le truc, mais c'était quoi, genre en 2 heures, c'était fait, quoi. Et j'étais en mode, je l'ai montré à mes potes. Ils m'ont dit, vas-y, fonce. Et le clip, pareil, vu que j'ai des potes qui font de la vidéo, en fait, on fait que entre copains. Et c'est aussi l'ADA du projet, c'est de tout faire entre cops, quoi. Du coup, ça permet de rester dans un naturel que tu perds peut-être si tu commences à bosser un peu avec n'importe qui. Je sais pas si ça répond vraiment à la question.
Ouais, ouais, carrément. Ce qui est cool avec Joli Péché, c'est que c'est vraiment des thématiques qui parlent à tout le monde, en fait.
Ouais, c'est le but aussi de mes sons, c'est exactement ça.
Donc t'as pas forcément de public cible, en fait, tu t'adresses un peu à monsieur tout le monde, à monsieur n'importe qui.
Exactement, ouais. Je cherche à toucher vraiment chaque âme différemment, et si je puis dire que je la touche, tu vois, c'est le but à terme. Et que ça s'adapte vraiment à l'expérience empirique de chacun pour chaque son que je fais, quoi.
T'es une artiste plurielle, comme tu l'as dit. Comment tu te décrirais en tant qu'artiste? Quel est ton style?
Mon style musical?
Ouais.
Ok. Bah, je dirais, j'ai commencé par la pop parce que c'est ce qui touche, surtout quand c'est francophone, c'est ce qui te touche en premier. Et après, j'ai écouté Ray, j'ai écouté Charlotte Cardin à ses débuts et j'ai dit, en fait, c'est beaucoup plus cool de... par rapport même à ma voix, de se tourner vers la soul, tu vois. Et parce que aussi, j'ai envie de mettre beaucoup d'importance sur le live, faire des concerts, etc. Donc là, en ce moment, on essaye de faire que ça, parce que c'est ce que je préfère faire, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre. Et donc voilà, on essaye de continuer là-dessus. Et voilà, je me perds un peu, mais...
Non, du tout, c'est très intéressant. D'ailleurs, tu as une voix qui passe beaucoup à la radio,
ah,
donc...
Ouais.
T'es vraiment faite pour
l'ASMR.
Si tu devais nous parler de ta signature, est-ce que t'as quelque chose qui te caractérise en tant qu'artiste, que tu fais, peut-être une habitude ou quelque chose qui pourrait nous faire dire « Ah, c'est l'antagoniste, ça ».
Ouais. Je dirais que c'est sur scène, mm-hmm. plus que sur les réseaux ou quoi, parce que j'aime pas trop capitaliser là-dessus, même si on est bien obligé, mais je dirais sur scène, c'est du naturel. Je parle aux gens comme si c'était mes potes et je les tutoie et je leur dis à chaque fois foutez-vous à poil si vous voulez. Je pense que c'est un truc plus naturel que je m'oblige à garder, tu vois. Voilà, je dirais que c'est ça.
Foutez-vous à poil si vous écoutez Radio Campus.
Voilà, s'il vous plaît.
C'est ça. Du coup, ouais, t'as déjà fait des showcases ou des représentations publiques?
Ouais.
Ok.
Ouais, j'ai commencé par un truc pour le site d'action à Brie-sur-Marne il y a 2 ans. Que j'ai refait du coup l'année d'après, et depuis, avec l'aide de mes deux managers préférés, on a trouvé des petites dates par-ci par-là, dans un bar qui s'appelle le Bar à Loot, où j'ai fait la release du coup de l'antagoniste. Et là, le 7 mai, on fait les disquaires, donc venez s'il vous plaît, ça va être trop bien. Je pense que c'est la date qui vraiment représenterait le mieux ce que je fais, donc ouais. S'il y a un truc à aller voir, c'est ça. Et ouais, donc ouais, c'est chouette, c'est ce que je préfère faire en fait.
Vous avez entendu, n'hésitez pas à aller au disquaire le 17 mai.
Le 7.
Le 7 mai. Du coup, dans le clip Joli Péché, on aperçoit à certains moments la caméra. Il y a des gros plans sur toi, de la contre-plongée. Est-ce que c'est un choix? Et est-ce que justement, tu as participé à cette réalisation de clip?
Ouais, bien sûr. Mais le choix, c'était aussi de... Et c'est ce que je dis toujours avec les gens avec qui je travaille, c'est je leur laisse une part... d'artistique dans tout ce qu'on fait. Enfin, je me nourris tellement des gens autour de moi que ce que j'ai voulu montrer dans le clip, c'est bah, en fait, on monte le caméraman, on monte mes potes, mes meilleurs potes qui m'entourent, on monte mes managers, on monte mon mec qui joue avec moi sur scène. Enfin, tu vois, on monte tout ça parce que bah, en fait, sans ça, tu vas nulle part. Donc, c'est ça que j'essaie de dire dans ce clip-là aussi. Et ça passe par des cadrages un peu marrants, un peu loufoques et tout. Et ouais, j'espère que je l'ai bien... retranscrit, quoi. Mais
ouais, c'est un très beau clip, et justement ouais, on peut dire que en fait c'est une sorte de groupe,
ouais.
qui se cache derrière toi, en fait.
Exactement,
tu
ça.
Représentes un groupe.
T'as en gros. Très bien dit, ouais.
Ok, ouais, super. Tu es également comédienne. Et ça se voit justement avec ton interprétation dans Joli Péché, même également durant le live session de Joli Péché, tu arrives à faire capter vraiment les paroles, les émotions. Et donc c'est plus facile avec ton expérience peut-être de comédienne.
J'ai pas vraiment eu d'expérience de comédienne, tu vois, mais c'était plus derrière la caméra. Mais oui, après, je suis très expressive et tout, donc je pense que c'est ma personnalité que j'essaye d'exacerber et c'est tout, en fait, au final. C'est pas forcément de la... Je suis pas très bonne en comédie, je pense, mais sinon, ouais, c'est juste le naturel, je crois, je pense.
Est-ce que t'as des projets en cours, un album peut-être, un autre titre ?
Écoute, oui, on essaye. Là, pour le prochain titre, c'est un son qui est beaucoup plus rock, tu vois. Donc, tu vois, on essaye d'être éclectique un peu pour voir ce qu'on préfère faire et tout, qui parle de mon petit frère. Et ensuite, pour l'été, on a un autre clip, un autre son, pardon, qui va sortir. Mais tu vois, on fait que en single pour ensuite, à la fin, former un EP. Parce que comme ça, on touche vraiment les gens petit à petit. Si on sort tout d'un coup, bah, y a des sons qui vont passer à la trappe. Donc, on essaye vraiment de faire. D'embrasser chaque son à chaque fois.
Je me permets, désolée. Oui, vas-y. Et est-ce que c'est peut-être aussi une volonté de ta part, si je ne veux pas te tutoyer, désolée.
Oui, bien sûr.
De ta part, dans le projet, de aussi pas t'enfermer dans directement je fais un projet, je fais un EP et c'est officiel, et plutôt de toucher plein de petites choses sans te dire c'est un énorme truc et je me mets la pression là-dessus.
Ouais, complètement. Et puis même, c'est très juste ce que tu dis, même niveau musical, quoi. Comme ça, tu n'as pas de barrière à te dire, en fait, maintenant, je fais de la soul. Du coup, il faut que ça reste dans une DA soul, parce que sinon, les gens, ils ne vont pas comprendre. Là, j'ai un son qui est fait, qui sortira je ne sais quand, qui est techno, limite, tu vois. Donc voilà, c'est d'embrasser aussi plein de styles. Après, peut-être pour se trouver plus tard, mais vu que là, au stade actuel, on en est là, bon, ouais, complètement.
Step by step.
Ouais, de ouf.
Tu parlais justement de Ray, de Charlotte Cardin. C'est des artistes à renom qui ont fait déjà plusieurs concerts, mais qui restent quand même récentes, on va dire. Ouais. Est-ce que quand tu étais plus jeune, peut-être tu avais d'autres artistes auxquels tu te représentais ?
C'est une bonne question. Je dirais que la personne qui a été le plus. Qui m'a le plus aidée par rapport à ça, c'est vraiment mon père, quoi. Lui, il écoutait n'importe quoi. Je me souviens, au début, il mettait Philippe Catherine. Je me disais, mais qu'est-ce que tu fais Et au final, lui, il m'a apporté cette curiosité de partout et tout. Je ne dis pas que j'écoute des sons très indés. Je ne pense pas que je fasse ça. Mais oui, forcément, tu grandis avec ta famille. Moi, j'avais aussi des sons. Mon père est espagnol, du coup, des sons aussi qui venaient de Galice, etc., en espagnol. Donc, bref, tout un tas de trucs. Mais un nom précis... J'ai adoré Maroon 5, j'ai adoré Britney Spears. Enfin, tu vois, genre, je suis une gamine un peu normale aussi, tu vois.
Qui écoute Radio Campus, bien sûr.
Exact, c'est ouais.
Toujours, on n'oublie pas. Ouais, du coup, justement, avoir un père comme tu le décris, ça a peut-être favorisé
mon appétence.
Ton appétence, ton envie de toucher un peu tout le monde et tes styles différents, passant du rock à la soul, à la pop.
C'est clair.
Et est-ce que en touchant avec des styles musicaux aussi différents, est-ce qu'il y a des feats ou des personnes avec qui tu rêverais de faire une chanson, un single, chose comme ça ?
Je dirais une personne que je cite à chaque fois, c'est Yamé.
Ouais.
Parce que justement dans ce côté décousu de sa musique, c'est break un peu n'importe où et tout. Je pense que lui, ça doit être hyper intéressant de bosser avec lui. Il est un peu taré, ça se voit dans ses sons et je trouve ça trop chouette. Donc, voilà.
Et du coup, au niveau de ton processus créatif, tu disais que tu t'avais écrit Joli Péché en 2 heures, même pas.
Ouais.
Tu fonctionnes à l'inspiration sur le long terme en général ou vraiment à l'instant ? Tu sors une feuille, un stylo et puis ça part.
C'est marrant que tu me dises ça parce que justement Joli Péché c'est vraiment le son qui déroge à la règle. Parce que c'est le premier son, du coup j'ai fait un peu en mode vas-y j'essaye, on verra ce que ça donne. Mais j'avoue que j'ai une manière d'écrire complètement différente qui est celle de choper des phrases. Genre tu me dis une phrase qui peut te paraître lambda, je la note dans mon carnet. Et genre un mois plus tard j'écris un son, putain cette phrase elle irait bien sur ce style là, ce thème là, pardon. Et du coup c'est beaucoup du... Un puzzle en fait, genre. C'est plus comme ça que je fais.
Ok, ouais. Et c'est ce qui crée justement ce mélange qu'on aime beaucoup avec Joli Péché. Quelle est la première chanson qui t'a le plus marqué ? Je sais que tu disais que tu n'avais pas forcément d'artiste favori qui t'avait vraiment marqué, mais peut-être une chanson que tu partageais avec ton père, par exemple.
Je pense que je ne parlerai pas de chanson, parce que sinon je vais prendre une demi-heure à réfléchir. Mais, mais je parlerai peut-être de la comédie musicale Les Misérables.
Ouais.
Je me suis fait toute la disco du truc et ça m'a transcendée, quoi. Et depuis, je me la remets dans les oreilles et tout. Donc s'il y a un truc qui vient en tête que mon père m'a donné, c'est ça. Parce qu'il était aussi cinéphile, du coup, tout se mélange.
Tout s'explique.
Voilà. On y revient.
En tant qu'artiste, est-ce que tu pourrais nous décrire et parler un peu aux auditeurs d'une journée type avec toi ?
Oula. C'est pas... Je suis en intermittence. Du coup, je bosse en tant que cadreuse quand je peux. Mais il y a aussi beaucoup de journées où il ne se passe pas grand-chose, tu vois. Donc oui, ça m'arrive de me lever à 11h et de faire mon petit-déj. Et après, je me pose. J'appelle les deux gars qui me managent pour dire « Bon, bah attends, il faut qu'on ait un rendez-vous avec tel bar, machin. » Ensuite, j'écris 2-3 paroles, je fais une cover. Et le soir, je vais boire des pintes et on parle du lendemain et de la promo et du matin, tu vois. C'est beaucoup de trucs comme ça aléatoires, mais c'est très spontané et... Voilà.
Et quand tu fais est-ce que tu fais des journées d'écriture sur ou des journées de studio ou est-ce que c'est plutôt des semaines de résidence, choses comme ça? Comment est-ce que tu fonctionnes aussi pour l'écriture et pour la création?
Bah disons que des fois on s'oblige avec des potes pour se voir et de faire un son, tu vois. Moi, je dis ça, j'ai 2 sons qui sont sortis, mais il y en a bien
d'autres, plein d'autres prochainement.
Mais sinon, moi, ce que je fais, c'est vraiment, j'ai des pics d'inspiration, des sortes de fulgurances. Bon, bah, j'en profite, il peut être 2h du mat. Bon, bah, pendant 2h, je vais faire des trucs, et puis après, je suis fatiguée et ça me saoule. C'est un peu plus comme ça, en vrai.
Finalement, la journée d'une jeune fille artiste.
Ouais, un peu bordélique.
Plusieurs casquettes, quoi.
Ouais.
Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour des personnes qui souhaiteraient se lancer dans la musique ou plutôt derrière la caméra en tant que réal?
Mais en tant que fille, en plus, c'est très compliqué. Donc, ce que je dirais, c'est de s'entourer de personnes qui te portent, quoi. C'est ce qui m'a vraiment aidée, c'est de choisir mon entourage et des personnes qui te portent bien et qui te donnent l'envie de continuer, parce que tu la perds vite, surtout quand t'es une femme technicienne ou musicienne ou machin. Donc, voilà, je dirais ça.
Ok, super. Où tu te vois dans 5 ans ?
Au Zénith.
Allez. Vous l'avez écouté pour la première fois sur Radio Campus Paris.
Les agents vous avaient entendu. Le Zénith.
Non, en vrai, je me verrais bien faire dans 5 ans. Ouais, faire des plus grosses dates, en fait. C'est du live, et kiffer encore plus le live. Et
pourquoi pas être programmé en festival,
ouais, clairement.
On l'espère,
de ouf.
Donc tes prochains projets, si t'en as, et si jamais, quand sortiront ces fameuses chansons dont tu nous parles depuis tout à l'heure?
C'est un peu aléatoire, mais je sais qu'il y a un son qui sortira pour l'été, ça c'est sûr, donc restez branchés. Genre.
Yes.
Le son de l'été pour vos playlists.
Exactement.
Super, et même pour s'ambiancer pour la fête de la
musique
là, qui arrive.
Exactement, ça va être top.
De ouf. Bah, d'ailleurs, on jouera au bar à Loot pour la fête de la musique, si vous êtes intéressés. Voilà.
N'hésitez pas, les auditeurs.
Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette interview. Merci beaucoup, Lo, d'être venue nous parler de ton single Antagoniste. Merci beaucoup à toi, Rania, pour tes questions.
Merci, Lo, Antagoniste.
Et heureux hasard, maintenant, on va écouter ton single Antagoniste de Lo.
Trop bizarre.
On se retrouve juste après.
L'apparence normale, elle joue de ses charmes. Elle est folle alliée, elle renonce à la morale. Y a toujours un joker, un bouc émissaire, et sa beauté s'arrête à ses yeux parfois. Tu vis dans sa tragédie, et au cas où sa lettre ne te parvienne pas, c'est ta némésis, c'est ton antagoniste, ton antagoniste, c'est ton antagoniste, oni, oni. Peur sur la ville, elle écrit sur les vitres. que tu pleures, qu'elle rit. Raye les voitures et tape dans les murs, toujours par plaisir. Tu la détestes parce que tu la détestes, même pas un peu. L'antagoniste t'a regardé droit dans les yeux. Et sa beauté s'arrête à ses yeux bafards. Tu vis dans sa tragédie. Et au cas où ses lèvres ne te parviennent pas, c'est ta némésis. Hey, antagoniste, ton antagoniste, c'est ton antagoniste. Oni, oni. Toi, c'est tant pis. C'est ton C'est ton antagoniste. Ton antagoniste. C'est ta
Vous venez d'écouter Antagoniste de l'eau.
Le flash info de la matinale de 19h.
Alice, c'est à toi.
Bonsoir à toutes et à tous. L'Observatoire français des drogues et des tendances addictives a publié aujourd'hui une étude sur le vapotage et les lycéens sont particulièrement concernés. En 10 ans, la part des jeunes qui s'essayent à la cigarette électronique est passée de 35 à 48%. Encore plus édifiant, la part des lycéens vapoteurs quotidiens a plus que doublé, passant de 2,8% en 2018 à 6,8% en 2024. Autre chiffre intéressant, les lycéens des établissements professionnels sont davantage concernés, à hauteur de 58,7%, une augmentation trois fois plus importante que dans le reste de la population. Et l'augmentation des vapoteurs est plus importante chez les lycéennes, 48,7% contre 43,2% chez leurs pairs masculins. Des spécialistes de santé appellent d'ores et déjà à une mobilisation de la classe politique pour lutter contre le phénomène de dépendance. Après un test grandeur nature de produits issus de plusieurs plateformes en ligne comme Temu, Shein et AliExpress, la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, a publié un rapport édifiant ce matin. Depuis avril 2025, pas moins de 650 références de 7 sites étrangers ont été analysées en labo. En particulier, les produits destinés aux enfants, comme les articles de puériculture et les jouets, les produits électroniques qui peuvent présenter de réels risques d'accident, et les produits en contact direct avec la peau, notamment les produits textiles et les bijoux fantasy. À retenir, 75% des produits se sont révélés non conformes, principalement pour des défauts d'étiquetage, et 46% des produits analysés étaient dangereux et présentaient même des risques pour la sécurité des consommateurs, étouffement, étranglement, choc électrique, incendie ou encore des traces de contaminants chimiques comme le cadmium. 260 références ont déjà fait l'objet d'une alerte et plus de 100 000 unités dont 57 000 jouets ont été retirés de la vente. La DGCCRF appelle les consommateurs à la plus grande vigilance. Le ministère des Affaires étrangères a mis à jour aujourd'hui une note concernant la situation au Mali. La France recommande à ses ressortissants de quitter temporairement le pays dès que possible, estimant que la situation sécuritaire après les attaques de samedi dans plusieurs localités du pays, dont Bamako, demeure extrêmement volatile. Depuis les attaques des djihadistes du Jim, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et des rebelles Touaregs du FLA, Front de Libération de l'Azawad, contre la junte en place, au moins 23 morts civiles et militaires sont à déplorer. Ce mercredi encore, le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU a fait le bilan d'une répression sanglante en Iran depuis le début de la guerre au Moyen-Orient fin février. Au moins 21 personnes ont été exécutées et plus de 4000 arrêtées par les autorités iraniennes pour des motifs politiques ou liés à la sécurité nationale. Le haut commissaire aux droits de l'homme, Volker Türk, se dit consterné par le bafouement brutal et impitoyable des droits du peuple iranien. Du sport, pour terminer, hier soir, le PSG a battu 5-4 le FC Bayern Munich au Parc des Princes lors de la demi-finale aller en Ligue des Champions. Un match qui restera dans les annales du football pour beaucoup de supporters. Historique, le meilleur match de ma vie, un conte de fées. Voilà un peu les réactions des fans après avoir vu le festival offensif de la part des joueurs parisiens. Rendez-vous la semaine prochaine pour le match retour, cette fois-ci à Munich.
Merci Alice. Et maintenant, c'est l'heure de la chronique actu sur la censure journalistique présentée par Iske.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Ce matin, je lis dans les actualités que Donald Trump a demandé le renvoi du présentateur Jimmy Kimmel à cause de sa parodie sur une attaque survenue lors de dîners des correspondants dans la Maison Blanche. Cette situation dans laquelle une autorité fait taire ou sanctionne des journalistes et des animateurs n'a rien de nouveau, puisqu'il existe depuis l'apparition des médias. Ça n'allait bien loin, l'année dernière, Donald Trump a suspendu le même présentateur après une satire concernant la saison de Charles Kirk. En Inde, l'humoriste Kunal Kamra a été poursuivi pénalement par les autorités après des blagues visant le vice-chef du gouvernement Maratha. Et en Turquie, le journaliste Alisa Uludaga a été arrêté cette année pour des insultes au président Recep Tayyip Erdogan dans les réseaux sociaux. Tout cela m'amène à me demander comment est-il possible que dans un monde de plus en plus développé, il existe encore de la censure et des violations de la liberté d'expression. Avant de répondre, il convient de rappeler ce que signifient réellement ces droits. La liberté d'expression protège la liberté de communiquer des idées, des opinions et des informations, mais aussi des formes artistiques comme l'humour, la caricature ou la satire. Beaucoup peuvent penser qu'ils ne défendent que des discours respectueux ou agréables, alors que son sens le plus profond est précisément de protéger ce qui dérange, remet en question ou provoque le débat. Si l'on autorisait ce qui ne gêne personne, on ne parlerait pas de liberté mais de simple conformité. Cela dit, il est vrai que le monde a énormément progressé sur le plan technologique et dans certaines valeurs sociales. Nous vivons entourés d'intelligence artificielle, d'innovation numérique et des sociétés de plus en plus conscientes de l'égalité des droits civiques. Cependant, ce progrès n'a pas effacé une réalité bien plus ancienne. L'information reste au pouvoir. Celui qui contrôle le récit public peut influencer l'opinion des citoyens, renforcer son image et affaiblir ses adversaires. C'est pourquoi nous continuons à avoir partout dans le monde des responsables politiques et des entrepreneurs censurés ou manipulés des informations par divers moyens. Le cas de Donald Trump est particulièrement ironique car il est l'un des dirigeants qui a le plus profité de la liberté d'expression et la diffusion sans filtre sur les réseaux sociaux comme Twitter. Sa ascension politique a été étroitement liée à cette capacité de communiquer directement, de provoquer des titres et d'imposer l'agenda public. Pourtant, lorsque ce même espace de liberté se retourne contre lui et devient critique ou moquerie envers sa personne, il passe de la défense à la remise en cause. Cela montre une contradiction fréquente dans la politique contemporaine. Beaucoup invoquent la liberté d'expression lorsqu'ils les favorisent, mais la jugent offensante ou dangereuse lorsqu'ils les visent eux-mêmes. Dans ce contexte, il est important de rappeler que le rôle des médias, c'est faire connaître les faits et ouvrir le débat sur des sujets qui questionnent le fonctionnement du gouvernement, de la politique et de la société. Il est nécessaire que ce quatrième pouvoir démocratique se détache des institutions et devienne une entité indépendante capable d'informer librement sur des questions essentielles sans influence ni pression extérieure.
Merci beaucoup à toi pour ta chronique. Actualité. Il est 19h29 sur Radio Campus Paris. On va vous laisser et revenir juste après avec une petite pause musicale. On va écouter The Laser Gallery de So Kind.
Defenses, deliver your sermons. How can I recapture an interrupted dream? Where my bones hang so lightly from the skeleton tree? Why must I try to be so kind? Why must I? Why must I? Why must I?
try to be so kind. Reluctant, searching for wholeness. Is this the final cut? Is this the grand course? Being put on display in those market stalls. Why must I try to be so kind? Why must I try to be so kind?
De The Laser Gallery. C'est l'heure du deuxième Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et ce soir, on reçoit pour ce deuxième Zoom le groupe Oh No avec Rory, Ulysse et Diane. Bienvenue à vous déjà sur Radio Campus Paris.
Merci. Salut.
Merci, bienvenue.
Et Eve, tu vas mener cette interview avec moi, mais je te laisse la main.
Ah, tu me laisses la main. Donc bonsoir à tous les trois. Merci d'être venus. Une petite question mythologique. Comment vous vous êtes rencontrés avec ces trois prénoms très porteurs?
Eh bien, alors Diane et Théo, le bassiste qui n'est pas présent ce soir, sont rencontrés en 2021, non? Quelque chose comme ça?
Ouais.
À Paris, dans les soirées parisiennes. Ensuite, pour ma part, moi, j'ai rencontré Théo en 2022 à Berlin. On était en vacances, puis on a parlé musique et il m'a parlé de son projet avec Diane, qui était plus électro de base. Et il m'a dit...
Electropunk.
Electropunk, ouais. On va acoustifier tout ça. Donc, on est rentré sur Paris et puis on a fait quelques petites répètes ensemble. Et ensuite, Rory nous a rejoints quelques mois après. Et Damien, le saxophoniste également... qui est arrivé genre 6 mois plus tard, quelque chose comme ça.
Ouais, de base, moi, je connaissais Théo qui m'a contacté en me disant on cherche juste un guitariste pour faire du live en fait. Et de base, moi, j'avais pas d'idée de groupe ou de trucs comme ça. Et en fait, quand on a joué ensemble tous les quatre à la base, ça s'est trop bien passé. Et au bout d'un moment, on s'est dit mais en fait, on fait un groupe quoi. Du coup, après, on a essayé de trouver un nom et de faire vraiment un groupe quoi.
D'accord. Et alors, j'ai une petite question pour Diane. D'où vient cette voix puissante et lyrique? Est-ce que tu as suivi une formation au conservatoire?
Je disais, elle me pose la question à moi, mais non, pas du tout. Du coup.
Mais Diane, c'est déjà ça, le désavantage d'avoir trop de Diane à la même table. Non, ben, je pense que j'ai commencé à chanter dans la chorale de l'église.
Waouh!
Jadis, mais enfin, je pense que c'est les premières fois, disons. Et non, pas de conservatoire. Voilà, j'ai fait du chant en chorale petite, mais je sais plus lire la musique. Mais non, bah, je savais fut un temps, mais voilà, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est assez intime le chant, donc je pense que ça se développe en grandissant aussi, et même la manière dont je chante a vachement évolué avec le temps, et je me suis vachement découverte dans le projet de groupe aussi. Où il y a des choses qui sortent par hasard presque par moment et tu te dis ah oh, putain je peux faire ça et tout ça ouais. Peut sortir et après ça devient des gimmicks réguliers. En tout cas toute la partie assez lyrique c'est comme ça que c'est venu presque par hasard dans des répètes et plus t'es fatigué parfois plus il y a des choses du hasard qui sortent et voilà tu te découvres toi-même quoi.
Waouh. Et donc j'avais une question justement sur, on va parler un peu de vos influences musicales, parce que il y a autant du côté, on entend un peu le côté punk, mais il y a aussi parfois des pauses très jazzy. Alors je ne me souviens plus du morceau que j'ai écouté, mais à un moment ça devient du jazz.
Je te connais plus.
Des films, non?
Oui, je, oui.
Ou je te connais plus.
Je te connais. Oui, 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 c'est ça.
Où il y a presque du scat.
Oui, presque ouais. À la fin, ouais, ouais. Et ouais, quelles sont vos influences? Parce que oui, on parle de punk, mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres influences derrière. Ah,
elles sont multiples.
Ouais. Vous avez grandi avec quel type de musique?
En fait, on est cinq, donc on est tous vachement différents. Et après, bien sûr, il y a des points de connexion et de convergence. Mais enfin, je pense, je peux pas parler à la place de tout le monde, mais chacun a un peu ses des influences qui se retraduisent dans son jeu. Mais enfin, si, après, je travaille dans un club de jazz, mais le morceau existait avant. Qui est ces influences, ça, c'est plus, enfin, le côté jazzy un peu, c'est. Je trouvais que c'était marrant de partir dans des choses qui sont au-delà du texte pour pouvoir utiliser sa voix de plein de manières, parce que c'est mon instrument premier et du coup c'est pas forcément une... J'aime le jazz, mais c'est pas forcément une référence au jazz en soi, c'est plus un moyen de s'éclater avec la voix et même au-delà du texte, quoi. Mais si tu veux parler un peu de tes influences, Rory.
Ouais, non, mais au-delà de mes influences, c'est juste, ouais, le groupe, on a tendance à être assez éclectique dans ce qu'on crée, parce que justement, comme je disais, on a tous des références un peu... différentes et après en fait on s'interdit rien, on aime justement rechercher et c'est pour ça qu'au final je sais pas, à un moment donné on cherchait un peu parce qu'on nous demande souvent de nous définir, donc on avait dit le truc dada punk parce que c'est un peu un truc de déconstruction de style et de remettre des blocs les uns avec les autres et nous voilà on essaye d'explorer collage, ouais. Ouais, du collage un peu, on essaie d'explorer des trucs et on s'interdit rien et donc là bah la bossa en l'occurrence c'est un des morceaux qui fait partie du premier EP qui avait été composé par Diane et son copain à l'époque et big up d'ailleurs Swell et du coup après on sait le truc qu'on a retravaillé et tout et voilà en fait on aime enfin surtout enfin je sais que on aime bien ce qui tape mais on aime aussi des trucs doux et qui ont de l'émotion vraiment forte quoi et Diane aussi elle est très forte là dedans donc voilà on aime bien voyager sur ce genre de truc et dans le nouveau projet il y a aussi des morceaux qui sont pas forcément jazzy mais qui sont dans le macabre très lancinant planant et vraiment profond émotionnellement. Quoi.
Ouais, ben d'ailleurs, je voulais vous demander, parce que j'ai pu écouter le titre Cette fleur-là, ça correspondait à quel mood au moment de l'écriture? Comment se déroule le process?
C'était
en fait
une résidence. Alors, chez Rory, en fait, le guitariste, il y a une cave avec un studio de musique, donc une batterie, de quoi enregistrer aussi. Ouais. Parce qu'il vit avec un autre groupe qui s'appelle Clone. Et donc, on s'est fait cette première résidence tous les cinq. On s'est enfermés pendant deux, trois jours. On a fait deux nuits et trois jours, du coup. On a composé donc trois morceaux. Fifi à papa, donc qui est dans l'EP aussi. Cette fleur-là, et puis Mort assurée, qui est, les trois sont dans l'EP. Et on s'est posé, en fait, on cherche un riff... posé dans la cave, c'est un peu comme à la maison, tu vois, donc on est un peu, on est confort, quoi. Et
c'est par souvent une jam, en fait.
C'est ça.
Enfin, ça dépend des morceaux, mais il y a des morceaux où il y avait une idée de base ou une volonté de base. Cette fleur-là, pas tant que ça, en fait. C'est bien plus partie d'une jam et un truc d'une écoute commune. Et il y a progressivement, il y a des éléments qui se rajoutent et chacun part en couille un peu. Et ça donne quelque chose qu'après on.
C'est les versions de genre 15 minutes des morceaux qui vont le jour.
Qui enfantent les morceaux de 7 minutes ensuite.
Et d'ailleurs, c'est quoi votre processus créatif? Parce que du coup, vous parlez de résidence. Est-ce que vous faites tout le temps des résidences pour imaginer des morceaux, etc.? Ou est-ce que des fois, ça vient juste aussi d'un moment que vous passez ensemble et vous dites « Ah, ça serait trop cool ».
Justement, cette résidence-là, ça faisait partie des premières pierres un peu qui ont fait les fondations de comment on fonctionne. C'est-à-dire que le premier EP, c'était surtout des morceaux qui avaient été créés par... Diane et Théo chez Théo en fait, où Théo a fait beaucoup de la prod en fait du premier EP et puis toujours maintenant et donc Théo le bassiste et du coup c'était surtout un retravail de ces morceaux là et là on se retrouvait en mode ah ok maintenant faut qu'on crée ensemble et donc c'était un peu des balbutiements de ça et donc il y a eu cette résidence là, il y en a eu d'autres par la suite, on a aussi eu la chance de pouvoir faire des résidences on espère cool genre le Circus à Biarritz et tout là il y a un an et quelques.
À Cap-Breton,
ouais. Et donc voilà, en fait, Merde, je sais plus ce que je voulais dire.
C'est pas grave.
Ça dépend aussi des morceaux. Il y en a qui viennent un peu du hasard, comme dans Le Salon, qui a donné le titre à l'EP ensuite, où c'était vraiment une blague de répète, où on a fait une espèce d'incantation collective. Ouais, ouais, on voulait faire un mic check, et du coup, j'ai commencé à faire dans le salon. Et puis, ils ont tous suivi, on a commencé à, ça a commencé à monter, et en fait, on était trippés tous ensemble. Et des fois, il y a des choses qui viennent du hasard. Comme dans Le Salon, et des fois il y a des choses qui on s'enferme et on est forcé à créer tous ensemble dans le noir.
Et d'ailleurs ouais, dans Le Salon c'est vraiment, on l'a créé genre quelques jours avant notre premier gros concert qu'on a organisé nous-mêmes à la Miroiterie à Ivry.
Ah oui,
et on l'a joué direct et
on l'a testé en live,
trois jours après, c'était grave cool. Mais du coup ouais, au final ouais, il y a différentes manières, mais genre par exemple me rassurer, c'est Diane qui avait trouvé un truc au piano, et après on a tous suivi.
Ouais, Faxé par exemple, ouais. Le morceau Ska, ça on l'avait commencé chez Théo pour le coup.
Okay.
Comme à l'époque, on avait fait une petite maquette sur Ableton, puis après bah, le truc a évolué. Ensuite, en général, en fait, dans le processus, souvent on fait les maquettes comme ça, on les joue en live pendant 5-6 mois, et ça amène de nouvelles idées. Et donc, c'est à partir de ce moment-là en général qu'on va enregistrer les versions définitives. Quoi.
D'accord. Ouais. J'allais dire, tant que ça se termine pas comme dans Koh-Lanta, ça va. Plutôt tranquille.
C'est bon, en vrai, on travaille bien ensemble. Genre, on se met grave à l'écoute, on se fait kiffer, on est là pour le plaisir. Donc.
Et on est amis aussi.
C'est bien, c'est important.
Ouais, c'est vrai que ça aide. On est vraiment tout le temps fourrés ensemble et donc ça aide beaucoup quoi, à kiffer ensemble.
Mais du coup, on se fait découvrir des petits sons, un truc comme ça. Ouais. Petite ref.
Une belle ambiance.
Et je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur la conception de l'album, qui a conçu l'album, la pochette de l'album, parce qu'elle est assez originale. Est-ce que vous, comment vous vous connaissez avec l'artiste?
Alors c'est un EP déjà.
Mais on peut rêver grand et sortir un album. Voilà.
Ça pourrait être un album. C'est Rose Middman. Comment on la connaît? On la connaît tous un peu.
Ouais, et depuis un bal.
Ben ouais, la fête et les concerts. Et alors Rory me disait que Rose était sa partenaire de pogo pendant des années dans plein de concerts. Et je trouvais ça chouette, c'est drôle. Et on était tous un peu amis d'amis, copines, de concerts et de soirées.
Ouais,
et
qui fait son taf depuis un bail.
Ouais, ça nous correspond bien. Et puis au final, on lui a demandé, on a dit yeah, let's go.
Mais puis elle était grave chaude.
Elle est trop forte, bravo Rose. Elle fait, enfin, faut checker son travail, c'est Rosemont sur Insta, elle fait vraiment
c'est magnifique, vraiment. Ouais, les collages.
C'est vraiment, on dirait, des peintures, c'est hyper désuet, un vieux Paris, vieille France et tout, mais c'est trop, trop beau et genre, c'est trop bien fait. Et ouais, pendant genre des mois et des mois, je croisais une meuf dans les pogos de concerts de punk à chaque fois, et genre, on se rentrait dedans et genre, on se tapait des grosses bas, on avait déjà fumé des joints ensemble et tout, et en fait, je savais pas qui c'était, et un jour, on me dit, ouais, on va faire un shoot avec Rose et tout, et là, genre, on la voit et je me dis, Michael, c'est elle, genre, c'était vraiment drôle.
Pas échanger vos Instagram pendant le pogo, j'imagine.
Non,
c'est
non,
vraiment.
Non,
après, vous êtes rendu compte que c'était
on a échangé de la sueur pendant le pogo.
Et pourquoi vous avez appelé votre EP dans le salon? Qu'est-ce que ça vous évoque en fait?
Je pense que c'est aussi par rapport au processus créatif qu'on avait, genre d'être tous dans la maison de Rory, donc vraiment ce côté un peu intimiste, etc. Et plus le côté incantation qu'on a eu pour le morceau éponyme dans le salon.
Ouais.
Et en plus de ça, je sais pas si... Après ça, c'est un peu comme je le ressens personnellement, mais genre les scénos qu'on fait sur scène, en live, etc., il y a grave un côté justement dans le salon. Et donc ça collait pas mal avec ça, avec genre les petits guéridons, les trucs comme ça, les tapis.
On met tous les tapis et les lampes qu'il y a dans mon salon.
C'est littéralement, en fait, c'est
des rideaux. C'est un déménagement, en fait. Voilà.
Littéralement dans le salon, au final. Ouais. Donc c'est venu naturellement.
Et est-ce que vous avez un caïman dans le salon? Parce qu'il y a le titre du caïman.
Mais...
qu'il existe.
Il a existé.
On ne répondra pas à cette question. Ah, ouais, je fus un temps. Et peut-être mort, mais il y a beaucoup de fantômes avec nous, donc toujours un peu quelque part.
Il n'est pas sur scène en tout cas, j'imagine que les gens peuvent venir, ils vont pas
se faire. Il a été dans notre deuxième édition de concert des Onon Night. On a eu le caïman sur scène avec nous.
Et je voulais vous demander quelle importance vous accordez au live, justement, parce qu'on m'a dit que vous faites participer le public. Comment ça se passe?
Déjà, le live, c'est la meilleure partie de tout ce qu'on fait. Hein. C'est, c'est cool de créer de la musique. Il y a des moments un peu suspendus entre nous, mais c'est vrai que quand on joue devant des gens, ça n'a pas la même portée. Et puis même, il y a un truc presque physique, un peu cathartique aussi en concert. Et donc, en tout cas, nous, c'est ce qu'on préfère dans la musique en général. Et après, on fait participer le public.
On a surtout des performeurs en fait qui viennent Big Up Macha et pour la dernière Grand Gaillard. Et du coup, il y a eu des moments par exemple avec Anna, tu sais, quand elle faisait le truc du sang sur Moustique la dernière fois et tout. Donc, mais c'est surtout le public. Enfin, on est très proche de notre public et on a beaucoup d'interactions. Enfin, Diane, elle est super proche du public
le
aussi.
Côté cabaret.
Le côté cabaret, je pense que c'est surtout on crée on essaie de créer une bulle, quoi, genre une sorte de spectacle, tu vois. Genre, on aime tous les trucs un peu théâtral, cabaret-esque. C'est un peu comme une troupe, ouais. Et on arrive et on installe notre décor. Et en fait, comme pour revenir sur ce qu'on disait juste avant, du décor dans le salon et tout, c'est un peu ça, quoi. On crée une espèce. On invoque un endroit, on crée une bulle, un espace. Et du coup, on se sent bien. Enfin, moi, je sais que quand je suis sur scène et que je suis dans ce décor, face aux gens, en plus, on a de plus en plus de gens qui viennent nous voir et des gens qui se mettent un peu dans le délire et tout, stylistiquement aussi. Et en fait, ça crée une espèce d'une émulsion comme ça.
C'est assez fort.
Et aussi, il y a un truc où on a un peu une injonction aujourd'hui à être de moins en moins sur scène et à avoir des projets où on est de moins en moins et où on peut tourner facilement, quoi, des trucs qui sont rentables, où on est deux sur scène et nous on est un peu en mode fuck, ben là on est déjà cinq et en plus on ramène des gens avec nous. Il y a un truc vraiment important avec un truc collectif et de création collective qui est vraiment important pour nous. Dans le projet qui
en
fait
tout cas,
partie du live.
On sent de ce que vous en parlez que vous avez envie d'en profiter et j'espère que les auteurs viendront en profiter directement en vous voyant en live. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur Radio Campus Paris pour nous parler de votre nouvelle EP dans le salon.
Merci.
Et hasard de la programmation, vraiment total hasard, on va écouter maintenant dans le salon.
C'est parti.
Dans le salon.
est 19h51, vous venez d'écouter dans le salon du groupe Ono et c'est tout de suite le timing pour écouter la chronique libre de Eve.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Oui, c'est toujours pareil. Parfois, tu veux écrire une chronique où tu penses que tu vas être super drôle, mais comme tu as peur du flop, tu commences à écrire une autre chronique un peu trop sincère sur ton enfance, dont tu as peur d'en dire trop, et tu finis par saboter ta deuxième chronique. Bref, l'enfer de l'écriture. Amis du bricolage, bonsoir. Cela fait 2 jours que je tourne autour du pot pour écrire une chronique sur les jardins et ça ne mène nulle part. À défaut, ce sera une chronique pratico-pratique ce soir. J'ai découvert que, pendant des siècles, on nous a menti, nous les femmes, sur des outils fondamentaux. Alors que je m'ennuyais à l'automne 2025, une amie me conseillait d'acheter une visseuse dévisseuse parce que ça lui avait changé la vie. Amie, achète une visseuse dévisseuse, tu verras, ça te change la vie. Mais que n'avait-elle pas dit ? Comment vous dire ? C'était une révolution. Tant de femmes en souffrance et dans l'ignorance. On fait tout avec une visseuse dévisseuse, mesdames. On peut monter et démonter une cuisine avec ça. Tu as envie de détruire ta cuisine ? Vas-y, fais-le. Bon, après, il n'y a plus d'appui pour poser la casserole, mais c'est tellement génial. Je me suis retrouvée à monter et démonter des meubles en un rien de temps. Au lieu de passer une après-midi, j'ai passé une heure. Le porte-manteau branlant que ça fait 45 ans qu'il est dans la maison, bzzz, hop, ça dégage. J'ai découvert des cadavres d'insectes cachés derrière, cadavres qui devaient aussi avoir 45 ans. Après, j'ai dévissé et revissé ma maison, j'ai pété un câble. Pas un mur, mais ça aurait pu. Les visseuses dévisseuses existent sans fil, avec une batterie intégrée, et elles peuvent se recharger seules, comme des grandes. Un outil très féminin, somme toute. Encore un outil caché pour nous nuire à notre indépendance. Car oui, j'ai réalisé que j'aurais pu acheter un appartement, dévisser et revisser, le monter et le revendre, et j'aurais été riche à 25 ans. Mais enfin, on ne peut pas dire aux femmes l'existence de la visseuse dévisseuse. Mon Dieu, elles seront autonomes. Combien de femmes à ne plus dépendre d'un homme ? Combien ? Mais elles auront la vis dans la peau. Oui. Et on peut même transformer le bidule en manucure rotative pour polir les ongles. Et ouais, c'est multipratique. Après, j'ai arrêté, parce que j'avais plus de vis, ça. Mais... Depuis, je dors avec elle. Pardon, elle dort à côté de moi dans son petit coffret où elle fait dodo pratique. Elle ne ronfle pas comme le chihuahua qui me sert de chien. Mesdames, la visseuse des visseuses est sans fil, donc transportable. Comme les collègues qui t'emmerdent au boulot, tu dévisses tous les boulons de leur chaise. Ah ah, je suis géniale et perfide, mais géniale quand même. Tu peux te balader en tote bag avec ta visseuse dévisseuse au boulot. J'ai pensé à tout. À moi, la tranquillité pendant 3 mois. Comment ça, j'ai des idées de serial killer ? Mais je vous avais pas dit, je suis scorpion. Ce signe justifie à lui tout seul le côté psychopathe de ce commentaire. Bah oui, 3 mois d'absence plus les vacances d'été, ça fait 5 mois sur 12. Que demande le peuple ? Si on veut pousser le bouchon plus loin, je pourrais ajouter « Mais t'as pris du poids, Francine, c'est tout. » Et comme ça, plus de 3 mois en arrêt. Allez hop, c'est tellement facile. Pour info, Francine, même mouillée, pèse à peine 50 kilos. Ça t'apprendra, Francine, à me demander de faire une cagnotte. Pourquoi c'est toujours aux femmes qu'on demande d'organiser une cagnotte ? Peut pas faire une enveloppe comme les mamies ? Je maudis au passage les gens qui ont inventé le système de cagnotte. C'est les bonnes femmes que nous sommes à qui on fait perdre du temps, qu'on n'a déjà pas, dont on n'a rien à foutre du bébé de l'un, c'est pas mon bébé, ou de la retraite de l'autre qui va clamser dans 6 mois. C'est véridique. Alors avec ma visseuse dévisseuse, c'est surtout un fichu temps que je rattrape. La prochaine fois, je vous parlerai de la mini tronçonneuse. En attendant, la révolution féminine commencera avec des visseuses dévisseuses. Faites-en bon usage pour votre indépendance.
Ben merci Eve, je crois que la prochaine fois tu nous parleras de ton idylle avec chacun de tes ustensiles de cuisine. Merci, c'était un plaisir de t'écouter. Et c'est déjà la fin de cette matinale. Ce soir, cette matinale était en compagnie de Rania et de son invité Lo pour le premier Zoom, de Eve et de nos invités Rory, Ulysse et Diane du groupe Ono pour le deuxième Zoom. Alice était au Flash Info, Iske. Et Eve était aux chroniques, Joey était à la réalisation, c'était moi, Diane à l'animation et bien sûr Jeanne et Aude, les meilleurs de toute la Terre à la coordination. L'équipe de la matinale de 19h vous retrouve demain même heure et tout de suite c'est le monde zygomatique avec une émission enregistrée sur le thème du flop au musée des arts et métiers il y a quelques jours. Bonne soirée et à très vite sur Radio Campus Paris.
Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.